Le garçon avait les cheveux longs. On aurait pu lui faire un chignon. Et sa mère était toute rasée. Les côtes sont tout chamboulées.
Mais alors, l'amenant avec notre mauvais genre, on se pose la question de savoir si les métropoles ont un genre. Et on pourrait peut-être même parler de métropole du genre, Valérie.
On pourrait effectivement parler du métropole, de métropole du genre. Donc, métropole, dis-moi ton genre, quel est-il? Alors, moi je me suis dit d'abord, on va commencer peut-être par savoir, est-ce que la ville a un genre? En tout cas, auparavant, jadis, les noms de villes étaient de genre féminin. Donc, Bruxelles, Mabel. Voilà, une très belle chanson d'ailleurs. Et en fait, manifestement maintenant, les noms de villes demeurent féminins dans la langue littéraire, mais sont masculins dans le langage courant. Ce qui nous donne Bruxelles ma belle, mais Bruxelles brûle-t-il ? C'est assez rigolo, je trouve. Ah oui, il y a un changement de genre. Et si on a un pour les métropoles, pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas en avoir pour d'autres choses ? C'est la question que je me pose, mais bon, soit. Et donc, en partant de ce constat-là, je me dis, ok, ben, Bruxelles ou ailleurs, la ville a-t-elle un genre ? Parce que la construction d'une ville se fait généralement en fonction du besoin de ses habitants. École, crèche, zone résidentielle, magasin, etc. Et donc, ce qu'on peut remarquer, c'est que quelque part, le besoin des garçons de se dépenser dans des activités physiques semble modeler la ville. Parce qu'en fait, ça a joué un rôle important, notamment dans les terrains de skatepark, les terrains de foot, de basket, qui ont remplacé des terrains de pétanque et de balle-pelote, donc déjà destinés quand même plus aux hommes qu'aux femmes. Et donc, quand on met en avant ces espaces urbains clairement destinés aux garçons, pour canaliser, nous dit-on, une certaine violence. Et moi, ce qui m'interpelle, c'est de constater que cette non-mixité masculine qui règne n'est pas basée sur une pacification de cette potentielle violence. Il n'y a aucune canalisation de cette violence qui est tentée. On met juste des terrains de jeu ou des aires de sport destinées à canaliser la violence. On ne la pacifie pas, quoi. Et donc, à ce moment-là, je me dis, où est passée la mixité sociale? Où sont les petits-enfants? Où sont les aînés quand on sait qu'une partie la plus grosse partie des budgets octroyés pour les loisirs des jeunes profitent aux garçons? Là, je me dis quand même que ce n'est pas tout à fait juste. Il faudrait quand même en reparler à certains moments. De plus, ces activités périscolaires offrent plus de loisirs correspondant au goût des garçons. Si on regarde le programme des maisons de jeunes et des centres d'animation, souvent, c'est aussi, y a la balance qui pense quand même plus du côté des gamins que des filles, quoi. Et effectivement, du coup, on se dit comment la danse, le twirling bâton ou le poney, avec leur côté un petit peu démodé et mièvre, pourrait-il être subventionné face au rock, au rap, au skate et au graff? Franchement, du poney et du bâton, ça la fait pas, quoi. Donc, et par rapport à ça aussi, il y a une espèce de peur viscérale, en tout cas, de déviriliser les garçons par des activités dites féminines. Donc on leur propose pas non plus des activités autres que ce qu'on propose habituellement. Donc pas de danse, de chorale, d'art plastique, de théâtre, parce que ça pourrait les faire passer pour des PD, voire pour des gonzesses. Et ça serait pas cool quand même pour cette génération de futurs hommes en devenir. Et donc, maintenant, on peut aborder la question, parce qu'il y a eu, à un moment donné, il y a quelques années, il y a eu une jeune femme qui avait sorti, je pense qu'elle avait enregistré ou elle avait filmé, c'était filmé quand elle traversait certains quartiers à Bruxelles, où elle disait qu'elle vivait une insécurité urbaine, elle était interpellée. Et donc, je me dis, insécurité urbaine, mythe ou réalité? Dans ces villes, en tout cas, faites part, et pour les hommes, il est clairement difficile pour une femme de rester statique. Vaut mieux bouger, quand même, quand on est en ville. Hein, parce que sinon, on se fait aborder. Et voilà, et bon, ça ne veut pas dire que ça se termine toujours mal, mais quand même, vaut mieux bouger. Et donc, par rapport à ça, si en plus on se repositionne, on peut se dire aussi que la place de la femme dans la ville est souvent celle de l'invisibilité. Encore une fois, parce que les aires communautaires et de rassemblement sont souvent occupées par les hommes. Que ce soit les squares, les places, les bancs, etc. C'est souvent des groupes d'hommes ou de jeunes hommes. Et est-ce que vous connaissez une place ou une rue qui porte le nom d'une femme célèbre ?
Edith Cavell ?
C'est un hôpital. Il y a une place Edith Cavell.
Il n'y a pas la rue Edith Cavell.
Ah, il y a la rue Edith Cavell. Où il y a l'hôpital Edith Cavell.
Ouais, il me semble.
Il y a une rue Marie Curie.
Ah, il y a la rue Marie de Bourgogne.
Voilà.
Oui, et alors près de Flagey, il y a Marie-Henriette aussi.
Ok, Marie-Henriette, ça va. Mais à part ça, il y a certaines écoles pour des noms aussi. Mais de manière, si on essaye de regarder, en tout cas dans une espèce d'équité, on n'y est pas. D'accord.
J'arrête pas de réfléchir.
Un nom de boulevard qui porte le nom d'une femme.
Ah, de boulevard,
par exemple, de boulevard. Et si on prend une grosse artère, quoi. Émilie Jacquemin, c'est pas Émilie Jacquemine, quoi. Donc on est vraiment dans des trucs.
C'est n'importe quoi. Franklin Roosevelt, c'est évidemment pas sa femme.
Voilà, c'est pas sa femme non plus. Voilà, ok, on a.
C'est Dieu.
Il n'y a pas une avenue Élisabeth, quelque chose comme ça.
Peut-être quand elle deviendra reine.
Boulevard de l'impératrice.
Oui, mais impératrice laquelle?
C'est à côté de l'empereur.
Oui, voilà, c'est ça. On s'est dit, tu sais bien que derrière chaque homme, il y a une femme qui se cache.
Non, il n'y en a pas des masses.
Arrête de réfléchir, c'est ça.
Ouais, c'est ça, quoi. Ouais, c'est... Enfin, bon, en tout cas, ça, quand il y en a, évident, bien sûr, en fait. Mais c'est pas du tout évident. Ouais.
À Jette, ouais. Ils ont fait, il y a quelques années, il y a quelques dizaines d'années quand même, les jardins de Jette, près de ce qui était la ZVUB avant, donc il y a l'Uzette maintenant et Wemel, il y a rue de l'Arbre-Ballon, et donc ils ont fait tout ce qu'ils appellent les jardins de Jette, et ils ont, c'est toutes des nouvelles rues du coup, et il y avait la rue Audrey Hepburn.
Ah ça je me souviens, ouais. Et toutes des nouvelles maisons en construction.
Oui,
là, ouais,
et je me demande s'ils n'ont pas donné plusieurs noms de femmes, mais je ne suis pas sûre.
D'accord, ok.
Par contre à l'ULB, ils construisent des nouveaux ouais. auditoires à Erasme, où ils vont donner que des noms de femmes.
Ok. Ouais.
Parce qu'ils commencent à se dire que c'est un peu ballot.
C'est un peu limite aussi. Hein, donc,
et puis c'est tendance.
Voilà, c'est ça. La parité, comme dans les conseils d'administration, où il faut 50% de femmes et 50% d'hommes. Quoi.
Exactement.
Voilà. Moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que bon, voilà, il y a pas une visibilité qui crève effectivement les yeux. Pourtant, les femmes sont aussi présentes dans la ville, mais d'une manière un peu détournée. Par exemple, dans les kiosques à journaux, sur les affiches, souvent dénudées, purement décoratives, dans une scénographie à nouveau orchestrée par des hommes pour le plaisir, des hommes. Ben oui. Et donc, les femmes sont privées d'un droit à la ville sur un. En tout cas sur le mode du bien-être et de la sécurité, alors que si la ville s'attaquait au problème, il est quand même possible de créer des changements. Parce qu'en fait, en réservant du temps aux femmes dans des lieux non mixtes masculins, c'est possible en tout cas de ramener les femmes dans ces lieux-là, en programmant des événements culturels égalitaires et non sexistes, il y a moyen aussi, et en encourageant des pratiques sportives des femmes dans l'espace public. Donc ici, je suis en train d'énoncer, mais après, je vais vous expliquer qu'il y a quand même une ville qui a réussi à mettre tout ça en pratique et ça fonctionne. Et donc, il y a moyen aussi de se pencher sur la sécurité et le confort des femmes avec des campagnes contre le harcèlement, comme on fait d'ailleurs, ici, ça se passe à Esperanza avec le plan Sacha, avec des éclairages publics, des toilettes et non la parade qui s'appelle le pisse debout, parce que franchement, il faut quand même... Enfin, je sais pas, moi ça m'inspire pas, mais quand je vois le pisse debout, j'ai pas vraiment envie d'essayer, quoi. Alors, je me dis que s'il y avait des toilettes...
J'en ai un à la maison depuis des années, j'ai même pas encore...
Donc s'il y avait des toilettes qui nous permettent en tout cas d'aller faire pipi, je trouverais ça bien aussi. Et une réelle accessibilité des parcs et des espaces de loisirs, c'est-à-dire aussi en garantissant une certaine sécurité. Et donc, il y a une ville qui a été reconnue première ville inclusive et démocratique d'Europe, et c'est Vienne. Vienne a réussi à développer tout ça, en fait.
Tu sais, j'allais dire Stockholm.
Non, non.
Parce qu'on est allé à Stockholm, il y avait des toilettes publiques partout. Ouais. Dans tous les parcs, il y a plein d'endroits, il suffit de mettre des sous. Ah. Mais il y a, ouais, mais je crois que c'est un gage aussi du coup de peut-être de non-vandalisme. Il y avait des toilettes partout. Et c'est vrai que Stockholm avait l'air d'être en tout cas une ville. Je croyais que tu allais dire celle-là, parce qu'on était. On était bien dans la ville.
Ça changeait quoi.
Parce ouais. pas parce, uniquement parce qu'il y a des toilettes. Hein, mais...
non, mais disons qu'ils font attention. Mais c'est vrai que les pays scandinaves et certaines villes des pays scandinaves sont aussi bien cotées. Mais Vienne, en tout cas, est la première et la plus. Celle qui a développé le plus. Et donc, elle a commencé par un projet de logement. Donc, pensée vraiment intégralement basée sur l'égalité entre les hommes et les femmes. Okay. Et donc, c'est un ensemble d'immeubles d'habitat social. Donc, qui a été conçu par 4 femmes architectes. Et donc, je pense que ce n'est pas anodin quand même de le signaler. Et donc, au cœur de ce projet, c'est la volonté de faciliter au maximum les tâches au quotidien. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont regroupé, ils ont considéré le lieu de vie comme un lieu de travail. Et donc, ils ont intégré là-dedans une crèche, un cabinet médical, etc. pour quelque part inclure aussi les hommes dans la gestion de la vie quotidienne et alléger ces tâches que les femmes prennent souvent en charge, qui est d'aller chercher l'enfant, le déposer, l'amener chez le pédiatre, etc. Donc ils ont vraiment bien pensé tout ça. Et ils ont porté une attention particulière aussi aux espaces communs, avec des espaces protégés et piétons. Et donc il y a des allées, il y a des jeux pour les enfants, il y a des bancs, il y a des jardins, il y a des garages à vélo. Et donc ils ont limité la hauteur des bâtiments aussi pour garder une convivialité. Et tous les balcons et les fenêtres donnent en fait sur les espaces publics. Donc tout le monde a un droit de regard sur ce qui se passe. Ce qui met une sécurité aussi. Et quelque part, je n'ai pas envie de dire que ça instaure une sécurité par le voisinage, mais je pense quand même qu'il y a peut-être une autorégulation par les habitants eux-mêmes de ce qui se passe. Et donc, ce n'est pas du voyeurisme, mais ça fonctionne manifestement, quoi. Et donc, les couloirs et les escaliers des immeubles sont larges, bien éclairés. Le parking, pareil. Et donc, Vienne a développé une cinquantaine de projets basés sur ce fonctionnement-là, quoi. Et donc ça a commencé en 91, toute la réflexion a démarré en 91 et maintenant ils y sont arrivés. Quoi. Donc c'est vraiment une planification genrée sur l'aménagement aussi des lieux de vie, mais également des parcs. Donc ils se sont rendus compte que les fillettes n'allaient plus au parc à partir de l'âge de 10 ans. Donc au moment où les parents arrêtent d'amener les gosses au parc, les enfants, les filles n'y vont plus. Quoi. Et donc ils ont créé des parcs où tout autour ils ont mis des habitations, de nouveau sans bosquets, sans obstacles visuels. Et donc les gens voient ce qui se passe dans le parc et donc de nouveau ça se régule et il y a une sécurité qui s'installe naturellement. Quoi. Et les gens des immeubles vont dans le parc et donc ça se passe super bien. Éclairage de nuit renforcé, toilettes publiques partout. Et ils ont même travaillé la signalétique en fait. Donc les pictogrammes représentant par exemple avec une personne avec un enfant, prioritaires pour s'asseoir ou non à certains endroits, sont présentés dans une version féminine et dans une version masculine. Ah ouais. Donc, tout et chaque fois dans les deux genres. Quoi. Et donc, évidemment, là, on se dit, bah, c'est bien si on pouvait essayer d'avoir ça partout. Mais toujours des gens qui ne sont pas contents et qui aiment bien rouspéter. Et donc, il y a en fait tout un mouvement par rapport à ça qui dit que ces adaptations et ces innovations sont du renforcement de certains stéréotypes. Et donc, qui assimileraient les femmes à des victimes, à des mères ou à des personnes chargées du foyer. Donc, je dis, il y a toujours. Moi, je voulais quand même les citer parce que tout le monde a le droit à la parole, même ceux qui rouspètent quand il n'y a plus moyen de dire autre chose. Mais bon, moi, ce que j'ai envie de conclure, c'est que, mais ne rien faire, est-ce que ce n'est pas occulter la réalité des inégalités? Et la Vienne a bien réagi, quoi. Voilà.
J'allais le dire, en fait. Ouais, bah, de nouveau, c'est, voilà, si on parle de femmes, on parle des enfants. Ben oui. Mais j'avais juste fait, bon, voilà, parce qu'évidemment...
Mais c'est pour ça qu'ici, ils l'ont vraiment construit comme ça, quoi.
Et statistiquement, ils ont des retours? Enfin, est-ce qu'ils ont mené des statistiques pour voir l'évolution du projet?
Je ne sais pas s'il y a des statistiques, mais en tout cas, c'est positif parce que c'est sur base du résultat positif qu'ils ont décidé de mener encore 50 projets.
Wow.
Tu vois, à chaque fois, en disant habitat, parc, et ils sont en train de s'étendre. Quoi. C'est pour ça que la ville est vraiment reconnue comme première ville. Ce n'est pas un quartier, c'est toute la ville qui participe. Quoi.
Alors sinon, peut-être juste une expérience belge. C'est un bouquin qui reprend plusieurs expériences belges, en fait, et qui s'appelle « Partager la ville, genre et espace public en Belgique francophone ». C'est un ouvrage, en fait, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, il y a un an, en fait, en 2018, et qui a été écrit sous la direction de Muriel Sacco et de David Paternotte. Donc, Muriel Sacco, qui est chercheuse en sciences politiques et sociales au GERM à l'ULB, et David Paternotte, qui est chargé de cours et de sociologie à l'ULB aussi. Et donc, c'est aussi intéressant, en fait. Ils prennent différents endroits en Belgique francophone et analysent un peu ce côté par rapport aux questions de sexisme dans l'espace public et aussi ce qui a été mis en place, et entre autres des ateliers en fait non mixtes je sais plus où c'était, si c'est à Liège ou Place Montrichard, je ne sais plus, et où en fait au départ c'est non mixte pour les filles parce que les filles ne vont pas par exemple dans les écoles de devoirs, ce que tu disais un peu au début. Et au fur et à mesure en fait il y a une ouverture, donc c'est de moins en moins non mixte pour aboutir justement à cette mixité qui va permettre en fait aux adultes en devenir d'apprendre à vivre ensemble, en fait.
Il y a se réapproprier l'espace, en tout cas pour l'espace public. Femmes, ouais.
Ben voilà, je vous invite à le lire. C'est assez intéressant et c'est assez neuf, en fait, en Belgique francophone, en tout cas. Il n'y a pas encore eu de regard à ce niveau-là. Radio Esperanza.